of the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance.
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen.
Heroes never die.
Caught one. The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't.
Nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tunic. I'll make him feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Ce mois-ci, nous n'avons pas été en mesure de produire une nouvelle émission, nos plannings respectifs entrant en contradiction. Cependant, on vous a concocté notre quatrième florilège en mixant des chroniques et un entretien des saisons 5 et 6. On commence avec la chronique d'Alice, datant de février 2024, et portant sur le jeu Wildermyth du studio Worldwalker Games.
Donc effectivement, je vais vous parler aujourd'hui donc, d'un jeu, Wildermyth, avec un mécanisme narratif très ancien, dans une version toutefois très modernisée, puisqu'appliquée aux jeux vidéo. Tout commence avec les épopées. Les aides grecques, que je cite parce que je ne connais pas le fonctionnement de leurs équivalents dans d'autres cultures, racontaient les mêmes histoires, celles d'Ulysse, de Persée, de Bellérophon ou de Jason, d'une manière toujours très similaire et en même temps toujours très différente. Bien sûr, cela tient aux mots employés dans la narration orale, on varie les tournures, les formules, tout en gardant certaines pour retomber sur ses pieds. Mais cela tient surtout à la structure de ces récits. Ils sont toujours pareils, parce que Jason trouvera toujours la toison d'or, et toujours différents, parce que les obstacles que rencontrera Ulysse pour rentrer à Ithaque varieront selon les conteurs et leurs inspirations. Cette structure, le chercheur Mathieu Letourneux la met tout particulièrement en évidence dans les romans d'aventure. Il y a l'aventure, avec un grand A, objectif principal du héros, et les mésaventures, ces multiples péripéties qui viendront soit retarder l'accomplissement de l'aventure, soit l'avancer, soit n'auront rien à voir du tout, et permettront de mettre en lumière soit le caractère des personnages, soit le goût de l'auteur pour les belles scènes de combat. Là, vous vous dites, merci Captain Obvious, on connaît, c'est la structure classique, quête principale, quête secondaire des jeux vidéo. Absolument. La particularité du jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est qu'au lieu de fixer les mésaventures ou quêtes secondaires, donc comme dans la plupart des RPG ou open worlds actuels, il propose une base de données de péripéties qui se déclencheront procéduralement au cours de l'aventure. Wildermyth est donc un jeu de Worldwalker Games sorti en 2021. Il propose plusieurs scénarios, ou aventures avec un grand A, ou quête principale, au cours desquels votre équipe de personnages évoluera, vieillira, se mariera, aura des enfants, perdra un membre ou se transformera en homme corbeau. Avec des mécanismes classiques du RPG vieille école, dans une inspiration JDR, des combats au tour par tour et des graphismes façon théâtre de papier, c'est un jeu qui marque de suite ses références rétro et charme par son apparente simplicité. Mais ne vous y trompez pas, les combats sont ardus et punitifs et rares seront les héros à entrer dans la légende. Concernant l'aspect procédural de ces fameuses mésaventures, il ne tient pas donc à la génération narrative de ces péripéties, mais à leur activation. La base de données des quêtes secondaires a été préécrite, et le jeu vous invite d'ailleurs à ajouter les vôtres, et les mésaventures se déclenchent en fonction de la composition de votre équipe, de leurs relations et de leurs traits de caractère. Ces mêmes caractéristiques débloqueront différents choix en fonction de ce qui correspond et ou est accessible comme option à vos personnages. Ainsi, en plus de sa rejouabilité par différents scénarios, donc différentes quêtes principales et les différents niveaux de difficulté, Wildermyth offre une rejouabilité par les mésaventures puisqu'en changeant d'équipe, vous découvrirez de nouvelles péripéties et de nouvelles possibilités de réaction à ces péripéties. Je rajoute également que Wildermyth peut se jouer en coop en se partageant les différents membres de l'équipe, ce qui rajoute encore à la variété des expériences. Ce qui me touche particulièrement dans ce procédé de mésaventure variable, c'est, outre sa longévité et ses origines épiques, littéralement, c'est donc l'équilibre qu'il permet entre le plaisir de réentendre toujours la même histoire et la joie de la variation, de la surprise et des nouvelles découvertes. Je vous remercie beaucoup.
Merci à toi, Alice, surtout. C'était très intéressant et merci de m'avoir rassurée sur la prononciation du mot. Je vois que Beyond a une question ou une réaction.
Tout à fait, merci. Déjà, bravo pour la chronique, c'est toujours aussi bien écrit. Ça, à chaque fois, je suis toujours aussi impressionné. Et je connaissais pas du tout le jeu, je vois que le jeu a eu beaucoup de reviews, donc vraiment, je suis passé totalement à côté, et ça a l'air vraiment incroyable. Moi, j'adore tout ce que tu as raconté sur notamment la génération procédurale dans la narration, c'est des choses qui me fascinent. Alors je sais pas à quel point ça l'est, mais vu ce que tu dis, ça a l'air d'être vraiment très poussé. Et franchement, ça a l'air trop cool, le jeu a un visuel. Alors on est en audio, mais j'invite tout le monde à aller voir, c'est vraiment c'est un style visuel très marquant aussi, donc ça a l'air trop bien, donc merci pour la reco.
Bah avec plaisir, ouais. Moi vraiment quand je suis tombée dessus, le style visuel m'a impressionnée et en fait j'ai vu la profondeur entre guillemets de justement de ce côté procédural quand j'ai vu qu'il y avait un bouton création de scénario, ce qui est toujours très motivant quand on a bien aimé un jeu, et que là j'ai vu toutes les options à remplir et toute la complexité de si tel personnage a plus de 80% dans telle chose, il peut répondre ceci, mais s'il a tel autre trait, enfin voilà, je me suis dit ok, c'est pas pour moi, mais c'était très très motivant de voir effectivement la richesse même proposée du coup au joueur qui devient créateur aussi de ses péripéties dans le jeu.
Je vois également Ash qui souhaite réagir.
Oui, bah, ça m'a fait penser à l'ambiance il y a une dizaine d'années où ça commençait à parler dans les milieux de game design de génération procédurale et il y avait des gens qui voulaient avoir des projets avec un scope immense autour de ça. Je me souviens que Ken Levine était parti sur ça après Bioshock Infinite et on ne l'a pas revu pendant 10 ans et au final il est reparti visiblement sur un projet un peu plus simple. Et du coup, je trouve ça très cool de voir. J'avais pas joué à Wildermyth, j'en avais entendu un peu parler. Je suis contente de t'en entendre parler un petit peu plus et comme ça, et avec ses relations au mythe grec. Et je suis contente de voir que ces idées ont commencé à pouvoir infuser et on commence à faire des trucs dans des scopes qui sont un peu plus réduits, mais vraiment avec voilà, mettre en place une idée simple autour de ça et puis commencer à le faire fonctionner et puis à fouiller un peu là-dessus. Et je trouve ça grave intéressant. Merci pour la chronique.
Avec plaisir, et c'est vrai que effectivement il y a quelque chose d'assez terrifiant entre guillemets dans le fait de se dire voilà on va générer procéduralement une histoire parce qu'on a la procédure du choix de on a X histoire et on choisit dedans. Là c'est un peu le cas, mais c'est quand même beaucoup plus poussé puisque ça dépend aussi de l'équipe. Et puis et c'est vrai que j'ai parlé des inspirations avec l'épopée, avec le roman d'aventure où on a cette structure là qui permet une procéduralité. Quand j'ai joué à Wildermyth, je me suis posé la question aussi de si c'était pas finalement une sorte de fonctionnement mythologique, quasiment comme quand on raconte des mythes et que toutes les versions varient, donc je retrouve plus en réalité l'aspect de l'aventure avec, comme l'a dit Mathieu Letourneau, la grande aventure et les péripéties et les mésaventures. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose du mythe là-dedans, de l'éternel recommencement, de l'éternelle renarration. Et je pense que les liens avec le jeu vidéo sont très intéressants. Mais j'en dis pas plus, puisque il me semble que nous verrons bientôt une spécialiste du sujet.
On continue avec Léa, qui, il y a tout juste un an, s'intéressait aux ruines comme motif narratif.
Quand on pense narration, on pense souvent cinématique, dialogue, structure en trois actes ou jeu d'acteur. Et pourtant, bien sûr, dans le jeu vidéo, la narration est d'abord véhiculée par la qualité d'une atmosphère, par l'expérience sensorielle et mécanique de l'exploration d'un espace virtuel sur lequel, typiquement, la joueuse essaie de revendiquer une forme de contrôle en perçant ses mystères, en le vidant de ses trésors ou de ses ennemis, ou bien en cartographiant les moindres recoins pour obtenir en vrai complétionniste obstiné le success team associé. Le jeu vidéo est ainsi rempli de ruines mystérieuses, de temples abandonnés, de vaisseaux fantômes, de bases dévastées, tous des terrains de jeu idéaux pour cette appétence naturelle qu'on a pour l'exploration, et ce probablement bien davantage que d'autres médias qui ne permettent pas aux spectateurs d'arpenter et de reconstituer par eux-mêmes l'histoire du lieu qu'ils occupent, comme une sorte d'urbex virtuel. Bien sûr, c'est aussi une question de contraintes technologiques. C'est difficile, en effet, de programmer des PNJ crédibles, et puis ça coûte cher quand il y en a beaucoup qui se baladent partout, et puis c'est aussi coûteux en temps de développement, en ressources, etc. Mais bon, au-delà de ça, il y a une vraie fascination pour les ruines dans la vraie vie véritable, comme dans les jeux, qu'on retrouve dans presque tous les genres. En commençant par celui pionnier de l'horreur, bien sûr. Pour le jeu Forbidden Siren, par exemple, sorti en 2003, les équipes créatives se sont inspirées pour le village de Hanuda, du village fantôme, de l'Aikyo, comme les Japonais appellent ce genre de ruines, du village donc fantôme de Nichitsu et de sa mine abandonnée pour capturer une authenticité locale un peu glaçante, pour transformer le familier en malaise viscéral. Dans les jeux d'horreur, les ruines sont porteuses souvent d'un message d'alarme, avertissant les joueuses que ce qui est arrivé à ses occupants pourrait bien leur arriver aussi. Un monceau de cadavres horriblement défiguré ou bien un audiologue interrompu par un cri de terreur sont là pour nous dire « Ici, des gens sont passés et sont morts. Ils ont commis des erreurs. Ils ont violé l'ordre naturel et en ont payé le prix. Souhaites-tu vraiment suivre cette longue trace de sang sur le sol pour découvrir ce qui est arrivé à son contenant originel, quitte à potentiellement partager le même destin ?» Les histoires racontées par ces lieux vidés de leur vie sont aussi le vecteur idéal pour la fiction spéculative. L'effondrement de l'humanité est un thème récurrent, et le jeu vidéo est rempli de dystopies post-apocalyptiques. Des jeux comme Fallout ou The Last of Us nous invitent à traverser des lieux symboliques que nous connaissons très bien, que nous associons avec notre toute-puissance civilisationnelle, mais qui sont désormais envahis par les monstres, les fougères, et dans lesquels la nature, ou quelque chose de plus sinistre, a repris son droit. Un autre genre féru de ruines, le premier qui vous est probablement venu à l'esprit, je pense, est celui de l'action-aventure, bien sûr, comme les classiques Tomb Raider. Ici, les dangers existent toujours, mais la promesse de trésors enfouis est la récompense de notre exploration. Les joueuses se retrouvent souvent donc à détruire et à piller pour leur survie ou leur enrichissement, sans trop de considération sur ce que disent ces jeux sur la valeur historique et culturelle des artefacts du passé. Bien que ces jeux n'incarnent pas exactement les idéaux de l'archéologie moderne, un certain enthousiasme un peu niche pour ces mondes digitaux a fait naître l'archéogaming, terme un peu fourre-tout qui regroupe à la fois les efforts pour déconstruire la structure interne des jeux, les efforts pour établir une interprétation historique des mondes virtuels en se basant sur leurs éléments architecturaux ou vestimentaires, ou bien les efforts pour utiliser le médium comme vecteur d'instruction et de reconstitution du passé. Aujourd'hui, de plus en plus de jeux nous invitent à voir les ruines comme des opportunités d'apprendre et de s'ouvrir à d'autres perspectives que la nôtre, jusqu'à intégrer ces principes dans les mécaniques même du jeu. Par exemple, chaque ruine nomade dans Outer Wilds, que l'on cite encore, est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le fonctionnement mécanique du jeu et aussi sur les secrets de son univers que le peuple qui nous précède essayait lui-même désespérément de percer. J'ai aussi envie de mentionner ici Heaven's Vault, dans lequel on doit déchiffrer une langue disparue pour tenter de comprendre les origines de la civilisation dans laquelle évolue le personnage principal, qui est d'ailleurs archéologue. Enfin, les lieux abandonnés, quand on ne doit ni les craindre ni les exploiter, peuvent aussi être une fenêtre sur l'intimité d'autrui, à une échelle plus personnelle, qui joue sur notre curiosité, parfois un peu voyeuriste, et notre envie assez naturelle de fouiner chez les autres. On peut penser à des jeux comme Gone Home ou What Remains of Edith Finch, ou bien même Blueprints, des jeux dans lesquels on explore des lieux de vie plus récemment abandonnés, souvent d'ailleurs par des proches décédés, ou des proches dont le sort est le mystère qu'on essaye de résoudre en reconstituant leur vie, leurs secrets, leurs habitudes, etc. On nous y invite souvent dans ces jeux à interpréter ce qui nous est présenté, mais aussi ce qui ne l'est pas, ce qui hante les interstices, ce qui est non-dit, et donc à reconstruire parfois de façon très personnelle certains pans de l'histoire du jeu, comme une sorte de collaboration narrative. Une ruine est finalement une sorte de vanité digitale, parfois sombre et effrayante, parfois contemplative et tranquille, parfois une promesse de danger ou de mort, ou bien de richesses enfouies, ou encore d'immobilité éternelle, memento mori qui nous demande de plus en plus souvent de vraiment comprendre le passé et d'en tirer des leçons pour progresser. Une ruine est ce qui survit du passé et résiste au présent. Et pourtant, nos jeux et leurs ruines virtuelles ne sont jamais à l'abri de la disparition. C'est en effet un patrimoine culturel difficile à conserver, difficile à partager, difficile à exposer aussi. Et si ce sujet vous intéresse, je ferme donc cette chronique avec une recommandation, celle d'un long article d'un certain Jean Jouberton dans Point & Think intitulé « Le jeu vidéo a-t-il sa place au musée ?» Évidemment, je ne vous spoil pas la réponse à cette question.
Anna, tu voulais réagir ?
Oui, déjà merci beaucoup pour cette chronique. Je trouve que c'est vraiment super intéressant. J'adore l'idée des ruines, ne serait-ce que pour la symbolique que tu décris comme justement symbole de mémoire, mais aussi comme narration qui raconte quelque chose, qui donne aussi une information qui est... c'est une sorte de narration environnementale, en fait. Ça donne une information, mais sans pour autant trop en dire. Donc, je trouve qu'il y a tout un mystère autour de ça qui est vraiment assez fun. Et ça m'a rappelé une anecdote qui m'a bien fait rire. C'est que quand j'étais plus jeune et que je jouais aux Sims 3, il y avait la possibilité, justement, d'explorer, en fait, les catacombes. Donc, moi, j'associais ça un peu à des ruines. Et en fait, je passais vraiment des heures à juste explorer les catacombes. En fait, je trouvais ça super fun. Et comme il y avait tout un mystère, on entendait juste du bruit et en fait on voyait rien de ce qui se passait. Je trouvais ça assez mystérieux et du coup ça me donnait toujours envie d'aller plus loin. Et à un moment donné, donc on avait une possibilité, donc on devait faire un choix pour notre Sims. On devait soit continuer en prenant des risques, soit sortir. Et je trouvais que c'était vraiment incroyable en fait. J'adorais cette part de mystère justement qu'on associait aux catacombes, le fait de pas savoir ce qui s'y cachait. Et aussi à un moment donné, ils avaient sorti du coup les Sims 3 Destination Aventure et pareil, on pouvait voyager en Égypte et visiter les pyramides. Et alors même chose. J'ai dû passer des heures juste à aller toujours un peu plus loin, essayer de comprendre les secrets, essayer de savoir ce qui s'y cachait. Donc j'aime beaucoup ta chronique parce que je pense que ça soulève un point qui est justement ce point du mystère, du fait qu'il y a toujours quelque chose de caché et on a toujours envie d'en savoir plus et d'aller un peu plus loin. Donc voilà, donc je te remercie de m'avoir fait me souvenir de ces beaux moments dans les jeux vidéo.
Mais de rien.
Allez, je me lance. Non, c'est intéressant comme chronique. C'est vrai que c'est très évocateur ce thème des ruines. Et c'est vrai que il y a ce mélange entre ce que ça raconte maintenant en racontant ce qui s'est passé avant, en tout cas en le faisant deviner. Et j'en ai un souvenir précis sur deux jeux, sur le fait que, évidemment, on est dans un jeu vidéo, donc tout est construit, tout a été placé là par des développeurs pour tant de réussir à faire croire qu'on est en train de découvrir un passé et qu'on est en train d'être le premier à voir quelque chose de très ancien et qu'on n'avait pas vu. Et j'ai souvenir sur ça de Tomb Raider Underworld, le dernier Tomb Raider classique qui avait été fait, qui, en faisant découvrir le Cambodge à ce moment où on a ce vrai waouh en arrivant quelque part. Et puis je pensais à Portal 2, qui, pareil, le fait très bien, où à un moment le jeu fait shifter et fait comprendre que une grande partie du complexe a été abandonnée depuis très longtemps. Et pareil, il y a toujours ce petit côté magique de « Ah, je suis en train de découvrir quelque chose d'ancien », qui n'est pas du tout ancien, parce que c'est un jeu vidéo, tout a été artificiellement construit. Mais voilà, ces moments où le jeu arrive à être intelligent pour nous faire sentir intelligent. Et non, c'est vrai que c'est un très, très bon sujet, le fait que c'est très évocateur de montrer le passé au présent de cette façon-là. Donc, plutôt un safe bet, si les développeurs nous écoutent.
Ouais, alors c'est un sujet que je n'ai pas abordé dans ma chronique, parce que de toute façon, on peut en parler pendant très longtemps, mais les questions aussi de comment on représente les autres cultures et un petit peu ces questions de tourisme culturel, etc., etc. C'est aussi des questions qui sont assez intéressantes, importantes, je pense, de la façon dont on dresse le portrait. Souvent, donc, du coup, on s'appuie beaucoup sur des stéréotypes, des clichés, des idées reçues sur des cultures dont on visite les ruines. Et aujourd'hui, il y a clairement une remise en question de ces représentations-là, qui est très, très encourageante, mais bien sûr, on est très loin d'être parfait.
Première pause musicale avec Dead Department, composée par Sore High Heels pour l'OST de Lunacid. Thank you. Vous écoutez Une heure et 10 pixels sur Radio Campus Paris, et tout de suite, l'entretien avec Cassie Limousin, mené par Mehdi en janvier 2025.
Oui, donc on reçoit Cassie, freelance technical narrative designer. Salut Cassie.
Salut.
Merci beaucoup d'être présente aujourd'hui dans Une heure et des pixels. Donc je l'ai dit, tu es freelance technical narrative designer, donc tu as beaucoup de casquettes. Est-ce que pour rentrer directement dans le vif du sujet, tu peux nous dire à quoi ressemble une de tes journées de travail en ce moment?
En ce moment, on est sur... Je travaille sur une pré-production surtout, donc vraiment un tout début de projet où on a encore de la programmation à faire avant que les choses marchent et que les choses plus narrative design marchent. Du coup là, je suis surtout sur le côté tech où ben par exemple je vais faire en sorte de là pour un prototypage de programmer éventuellement les outils et améliorer les outils pour pouvoir intégrer des dialogues, intégrer des cinématiques, ce genre de choses directement dans le moteur, ou alors justement implémenter tout ce qui est ces dialogues et tout ça, et toutes les choses liées à la narration et un petit peu au gameplay dans le moteur, avec du coup ce qui avait été programmé. Donc voilà, mettre les différentes quêtes qu'on avait dit que j'ai designé, qu'on a designé dans le jeu pour qu'elle soit jouable. Donc je travaille surtout sur Unreal 5 en ce moment et en général. Du coup, ouais, c'est surtout du blueprint et beaucoup de Google Sheet et de points CSV que je fais bouger de partout pour intégrer tout ça. Et sinon, parfois, là, je suis un peu plus sur de la documentation et des choses, voilà, le côté un peu plus narrative design où je vais écrire les dialogues, les améliorer, continuer d'avancer les documents pour le world building ou pour écrire les personnages.
Et justement, c'est laquelle de toutes ces compétences qui est venue la première et qui a amené les autres dans ton parcours ?
Je dirais que c'est plutôt la programmation. Au début, entre guillemets, le côté narrative design, je sais pas trop, j'avais un peu peur de m'y mettre, entre guillemets, professionnellement, même si j'aimais bien ça depuis le début. Je me disais, oh là là, ça fait beaucoup à faire, je voyais, entre guillemets, beaucoup de personnes qui s'orientaient par là aussi, donc ça faisait un peu peur. Et pendant les études, souvent, je me retrouvais à vouloir faire un prototype, ou alors pour des... voilà, se mettre à avoir besoin de programmation alors que les personnes autour de soi veulent pas forcément le faire. Et du coup, ouais, je suis très vite mise à prototyper et à apprendre la programmation, le C# surtout. Et du coup, ouais, c'est la programmation et l'intégration, c'est ce qui est venu vraiment en premier, surtout ça, ouais.
On l'a pas dit, mais t'es encore une jeune travailleuse dans le milieu du jeu vidéo, mais t'as quand même travaillé sur Caravan Sandwich donc l'année dernière, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler justement de cette expérience?
Oui, j'ai travaillé sur Caravan Sandwich du coup en 2023. Ça a pas duré très très longtemps, c'était quelques mois, mais c'était un peu sur la grosse période où justement toutes les bases étaient déjà là et qu'il fallait vraiment implémenter. Donc on avait plein de quêtes qui étaient déjà designées par Marie et Pauline qui étaient passées, qui Pauline était encore là, Marie était déjà partie, donc Pauline Marlière et Marie Newman. Si je prononce ça bien, excusez-moi. Et du coup, donc les quêtes et les personnages étaient déjà toutes écrites quand je suis arrivé. Du coup, c'était vraiment tous les outils pour intégrer étaient aussi déjà là et fonctionnels. Du coup, c'était vraiment rentrer dans l'histoire et rentrer dans les personnages et se dire, allez, maintenant voici le personnage, intègre les dialogues, faire en sorte que la quête soit jouable du début à la fin avec du coup tous les outils qu'on avait. C'est surtout ça le travail pendant les premiers mois là-bas. Mais du coup, c'était... j'ai pu voir un peu tous les personnages, je me suis surtout occupé des quêtes secondaires, La plupart des quêtes secondaires, surtout en fin de jeu, c'est en partie moi qui avais commencé à les intégrer. Il y a eu beaucoup de changements entre temps parce que je suis parti. Entre le moment où je suis parti et le moment où le jeu est sorti, il y a eu bien 9 mois, quelque chose comme ça, 9-10 mois. Donc ça a bien changé. Mais ouais, c'était un peu les prémices du coup du technical narrative design parce que j'avais le côté vraiment intégration. Je faisais pas de programmation parce que tout était déjà là et on avait beaucoup de programmeurs avec nous. Donc c'était surtout de l'intégration. Et sur les derniers mois, une fois que toutes les quêtes qui avaient été designées ont été intégrées, là c'était un peu le plus où j'ai commencé à vraiment écrire un peu les crumbs, des petits bouts de narration que le personnage principal va dire dans son coin. À la base, on avait une idée de qu'en gros le personnage principal recevait des SMS des autres personnages du jeu. Et du coup, des moments en se baladant, on recevait en gros des messages privés de d'autres personnages qui commençaient à parler avec toi, qui du coup rajoutaient aussi de l'interaction, de la caractérisation. Donc j'ai un peu plus écrit de ce côté-là sur la fin. Donc il y avait un peu plus le côté aussi narrative designer où j'ai pu réfléchir à la manière de faire passer du contenu plus que juste de l'intégration.
T'en as tiré quoi pour tes futures expériences de ce passage sur Caravan Sandwich?
Bah ouais, ça énormément, vu que forcément c'était le premier travail entre guillemets en pro et la première fois qu'on bossait du coup à plusieurs sur la narration. Forcément, souvent en étude, quand on veut faire de la narration, en fait, on se retrouve seul avec ses docs finalement, il n'y a pas vraiment l'énergie et le temps pour faire plus que ça. Du coup, ouais, pour la première fois, j'ai pu travailler avec une équipe sur le narrative design entièrement. Donc on avait du coup Pauline en lead de narrative designer et j'avais Corentin en quest design, donc un autre collègue qui avait aussi commencé à peu près en même temps que moi. Du coup, on était vraiment trois à pouvoir réfléchir sur la narration et sur comment intégrer les quêtes et tout ça. Donc sur la première fois que j'ai pu échanger sur le contenu et sur la narration et sur les thèmes et sur les motivations, plus que juste avec ma propre tête, quoi. Donc ça a vraiment été un peu le côté équipe qui a changé sur Caravan Sandwich par rapport à ce que j'avais fait avant, parce que ouais, ça change quand même de pas avoir à travailler seul sur la narration, d'avoir plein de têtes avec nous, quoi.
Justement, ce côté équipe sur Caravan Sandwich, on se l'est dit un petit peu avant l'entretien, il t'a permis d'explorer le sensitivity reading. En quoi ça consiste tout d'abord et comment est-ce que tu l'as appliqué à la fois aux jeux vidéo mais aussi en dehors?
Oui, je vais préciser vite fait le sensitivity reading. Du coup, c'est quand une personne est chargée de faire un peu du consulting sur une œuvre par rapport à un personnage ou alors une situation pour voir si elle n'est pas offensante ou s'il n'y a pas des stéréotypes ou des biais par rapport à certains personnages qui ont été faits. Donc par exemple, moi pour mon cas, en tant que personne queer, du coup, si j'en fais, ça va être voilà, justement pour savoir s'il n'y a pas de stéréotypes homophobes qui vont passer dans un personnage, dans une situation, ce genre de choses. Et justement, sur Caravan Sandwich, un peu plus légèrement, on a eu plusieurs discussions sur des choses, sur certains personnages, en disant « Ah tiens, ce personnage vit telle chose, toi, à ton avis, comment est-ce que ça se développerait, comment est-ce qu'on développerait ce côté-là ?» Du coup, voilà, sur certains personnages, on s'était mis à plusieurs à dire « Ah bah tiens, on pourrait intégrer tel message queer et tout ça. » Et du coup, il y avait un peu ce côté-là, sensitivity reading, même si c'était entre guillemets pas pour ça que j'étais là, ce qui est un autre sujet. Mais en tout cas, ouais, j'ai pu entre guillemets y goûter. Et après, ouais, j'ai quand même un peu continué le sensitivity reading, notamment sur un roman actuellement.
Est-ce que c'est parce que tu voulais explorer un peu ce un peu l'univers du roman, ou c'est aussi parce qu'il y a encore un manque dans le jeu vidéo finalement à ce niveau-là?
Ouais, il y a clairement un manque, entre guillemets, le je n'étais pas non plus fermé au roman, c'est pas que j'ai pris enfin que j'ai pris un truc entre guillemets par défaut que je voulais pas. Ça me fait très plaisir et ça me fait très plaisir de voir les personnages et de voir ce qui est écrit et que je peux bosser dessus, ça me fait très plaisir. Mais clairement, dans le jeu vidéo, en tout cas surtout en France, ouais, il y a encore un peu de manque, un petit peu peut-être un cercle vicieux où du coup ben le sensitivity est pas très connu et il n'y a pas beaucoup de demandes, du coup il n'y a pas beaucoup de per... du coup il n'y a pas beaucoup de travail, vu qu'il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se déclarent sensitivity reader en tant que première activité, ce genre de choses. Du coup on croit qu'il n'y a personne qui fait le taf, du coup il n'y a personne qui fait machin, et du coup il y a un peu peut-être il y a un peu ça, un peu ce cercle comme ça où ouais, on n'a pas beaucoup encore dans le jeu vidéo. Sans parler de problèmes de quand de un peu de ça, de controverses et tout ça, où genre quand quelqu'un un studio ou n'importe qui dit avoir fait appel à des sensitivity readers, bah il y a des gens souvent un peu masculinistes, un peu sur la même tendance qu'un Gamergate, qui arrive en disant oh là là, c'est pas du consulting, c'est des gens qui forcent la diversité ou ce genre de choses. Du coup, ça doit faire un peu peur au studio. Mais ça, c'est encore un gros sujet. Mais ouais, clairement, ça manque un peu en France. Quand on voit en tout cas ce qu'on produit et les personnages qu'on produit, on peut le sentir, ouais.
Et donc actuellement, tu es freelance et tu travailles pour le studio Rebel Pixel à Lyon, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Je suis basé à Lyon et donc je travaille sur le petit studio où du coup voilà, tout début de production, c'était des personnes que je connaissais déjà qui venaient un peu de monter ça et d'avoir avec un qui avait un projet en tête. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour faire la narration et pour intégrer et pour faire des outils en même temps. Du coup, je suis avec eux depuis quelques mois, ouais.
Comment ça se passe? Est-ce que, enfin, comment tu la vois cette expérience par rapport à toutes celles que tu as pu connaître?
C'est beaucoup de travail parce que entre guillemets, je suis passé de travailler pour de l'intégration avec des choses qui existaient déjà, qui étaient déjà à travailler et tout ça, avec en plus une lead avec moi. Et entre guillemets, là maintenant, on n'est que 5 dans la boîte actuellement. On n'est que 5 dans le studio. Et je suis un peu la seule sur la enfin, je suis la seule sur la narration en grande partie. Et du coup, bah, j'ai un peu. Et du coup, j'ai un peu tout en tête et tout à un peu gérer moi-même, où on me laisse le champ libre pour écrire les personnages, écrire du world building, l'histoire et les dialogues. Et du coup, ça fait vite beaucoup de choses à penser, et c'est la première fois que je gère aussi comme ça dans une pré-production. Du coup, heureusement que je commence à avoir du consulting et quelqu'un d'un peu plus expérimenté pour m'aider et montrer vers où il faut aller, mais ouais, c'est un peu plus sportif entre guillemets de ce côté-là, mais ouais, ça me fait très plaisir de pouvoir écrire les personnages et tout ça, et du coup je peux un peu bouger sur ce que je veux. Si je veux faire de la documentation ensuite, c'est un peu compliqué et j'ai besoin de faire de la programmation, je marche beaucoup comme ça, du coup c'est bien pratique.
Et on l'a dit en te présentant au tout début d'entretien, tu es freelance et tu es en plus à peu près au début de ta carrière professionnelle. Est-ce que tu rencontres des difficultés et lesquelles, si c'est le cas?
Ouais, oui, un petit peu. Bah, c'est assez compliqué dans le sens où, bah justement, on n'a pas l'habitude de voir des gens en junior. Et en vrai, c'est pas une très bonne chose non plus. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui entre guillemets, peuvent forcer à prendre du freelance pour avoir du travail. Et ben, vu que c'est compliqué, forcément, des fois, on s'y lance un petit peu. C'est malheureusement un peu ce que j'ai fait. Là actuellement voilà, je travaille, mais c'est du coup c'est du mi-temps, enfin, ça dépend des heures et tout ça, et du coup c'est un peu ça, c'est pas la meilleure chose parce que c'est un peu un jeton un peu important qui peut bien marcher. Et en fait, bah, souvent, ce jeton vaut mieux le dépenser après plusieurs années d'expérience quand tu peux un peu avoir plusieurs projets en même temps. Malheureusement, c'est pas énormément mon cas non plus. Et j'ai un peu décidé de cramer le jeton. Parce que ouais, c'était un peu une des seules solutions que j'avais. C'était un peu compliqué. Donc, c'est pas la meilleure chose. Et il y a assez peu de connaissances, entre guillemets, quand on est jeune, combien est-ce que je peux me payer, combien est-ce que je peux demander d'argent. C'est voilà, et les histoires de droit du travail, encore ce genre de choses. Du coup, tu peux très vite te faire avoir. Donc, j'essaye de me tenir un peu informé de tout ça pour pas trop me faire avoir, mais c'est un peu dangereux, on va dire. C'est pas mal dangereux et il faut faire attention encore plus quand on débute.
Est-ce que c'est une question qui me vient comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui est abordé dans les écoles de jeux vidéo, si tu en as fait une en tout cas, justement, tout ce que les travailleurs, travailleuses du jeu vidéo vont devoir affronter durant leur carrière professionnelle. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé ou est-ce que c'est un peu un angle mort?
J'ai le souvenir que effectivement le freelance était parfois abordé, mais quand il était abordé, c'était souvent entre guillemets les professeurs eux-mêmes qui vraiment prenaient l'initiative de le faire, et c'était absolument pas un truc qui était obligatoire ou qu'on allait forcément avoir. Et non, clairement, c'est un peu un angle mort, surtout que la plupart des jeux, enfin, les écoles sont là pour te pousser vers des boîtes, en fait, pour te pousser vers des contrats, parce que ben, c'est un peu comme ça que les écoles marchent. On dit, oh là là, regardez, on a telle personne qui a rejoint telle entreprise, ce genre de choses. Du coup, le freelance, c'est pas quelque chose que les écoles aimeraient te voir faire. Des fois, on entend parler des écoles qui disent, oui, fondez votre propre boîte à la sortie d'école. Certaines personnes le font. C'est à peu près tout aussi dangereux, voire plus en plus, de fonder un studio. Mais du coup, ouais, clairement, les écoles vont pas trop t'en parler si tu vas pas toi-même, si t'as pas toi-même les bons professeurs qui vont aller venir te voir pour discuter, quoi. Mmh.
T'es donc installé à Lyon et t'es aussi un peu active, je crois, dans le tissu associatif local du jeu vidéo. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, j'essaye un petit peu. On a de la chance sur Lyon, vu que bah, forcément c'est un peu une grosse ville du jeu vidéo où on a pas mal d'associations qui font un peu du lien entre les gens et les studios, bah, surtout Lyon Game Dev qui du coup bah, voilà, minimum une fois par mois organise un peu des meet-up pour faire tout ça. Et j'essaye un petit peu aussi d'organiser un peu moi-même des meet-up pour un peu dans des contextes différents que maintenant les meet-up où il y a 100 personnes le soir, où c'est bruyant, c'est un peu compliqué, c'est vraiment une ambiance bah, after work que pas tout le monde peut accepter, quoi. Donc j'essaie un petit peu de faire ça, et à côté il y a aussi le collectif Sous les Néons où je suis bénévole, où j'essaie de faire certaines choses. Où, du coup, le collectif Sous les Néons, c'est quelques personnes de l'industrie du jeu vidéo et aussi des personnes liées qui sont du théâtre, qui essaient un peu de mélanger les deux, de faire des expositions de jeux vidéo dans des lieux culturels. Récemment, il y avait une exposition de jeux vidéo au Musée des Beaux-Arts qui s'est fait, et aussi des soirées qu'on appelle des soirées Playformance, qui sont des mélanges un peu de théâtre et de jeux vidéo et un peu de sur scène. Donc ça peut autant être vraiment genre quelqu'un qui va être plus vidéo essai sur scène avec un peu de travail, que des gens qui sont vraiment issus du théâtre, qui vont vraiment faire qui vont vraiment prendre un rôle ou se tenir sur un thème précis plus théâtral en intégrant du jeu vidéo dedans. Donc on a pas mal de choses, et là notamment on va faire aussi un gros événement pendant 3 semaines qui commence fin janvier dans un gros lieu culturel de Lyon, donc avec beaucoup de jeux, avec expositions et et d'autres activités liées aux jeux vidéo. Donc c'est chouette, ça bouge bien et c'est sympa de voir entre guillemets du jeu vidéo dans des choses plus proches de la haute culture ou autre chose, quoi.
Et autre manifestation moins associative cette fois, enfin, en tout cas manifestation liée aux conditions de travail, c'est le STJV qui a annoncé au moment où on enregistre cette émission, il y a assez peu de temps, un appel à la grève générale de l'industrie du jeu vidéo pour le 13 février. Est-ce que toi, à titre personnel, tu comptes y participer?
Oui, c'est vrai, j'ai vu ça aussi, effectivement. Bah oui, c'est vrai que je suis quand même pas mal intéressé. De mon côté, je suis freelance et tout ça, une boîte de 5 personnes. Malheureusement, mon impact sur mon studio, ça va pas faire grand chose, mais bah, c'est toujours cool de même si on n'est pas forcément du jeu vidéo, de rejoindre un peu le mouvement et tout ça, parce que ouais, j'ai énormément d'amis qui ont des soucis. Voilà, j'ai des amis à Dournod qui sont en grève actuellement aussi par rapport à ça. Et ouais, comme ce que j'avais passé sur leur appel, ouais, juste ne pas venir travailler, c'est déjà agir. Mais ouais, je ressens, c'est très clair entre guillemets les besoins qu'il y a et les revendications qu'il y a, en tout cas, ouais.
Ouais, on suivra ça, j'imagine, de très près. On continue cet entretien juste après la deuxième pause musicale et on écoute You and I, composé par Austin Wintory et interprété par Mary Elizabeth McGlynn et Laura Bailey pour l'OST de Straight Gods. After centuries of cruel injustice, everybody working against me, every idol but for one, violent with apathy. We couldn't reach a resolution, but you and I, you and I. Like me don't have too much to hope for. The rules been fixed throughout the ages, so I have forged a daring path. I would like to make some changes. You see, we can win a revolution. It's time that you kick 'em right back. You've got one big mouth on you, don't you? Yet it's me who's closing in. Think I like that. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouvons Cassie pour la suite de l'entretien. Alors la musique que l'on vient d'écouter, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisie?
Oui, elle vient du coup de Stray Gods, donc c'est un peu un jeu comédie musicale. C'était développé par Summerfall Studios, qui est sorti il y a un an et demi, je dirais, je crois. Et j'aime énormément tout ce qui est jeu musical, enfin, les jeux musicaux, et jeux de rythme et tout ça. Et celui-là il m'est vraiment beaucoup plu parce que je suis un peu dans ma phase comédie musicale en ce moment. Et du coup, dire waouh, les OST me marquent. Et là, les OST, c'est genre les personnages qui les chantent et tout ça, c'était vraiment du coup, t'es vraiment bien dans le truc. Et cette musique en particulier, c'est la musique qu'on a entre guillemets qui démarre la romance avec un des personnages qui est Perséphone. Donc Perséphone de la mythologie grecque, parce que du coup le plot du jeu, c'est on se retrouve un peu au milieu de plein de dieux grecs qui nous disent qu'on a commis un meurtre, et c'est un peu de la musique et de l'enquête. Et voilà, quand vous avez pu entendre la musique, il y a un peu ce côté un peu flirty de Perséphone qui parle de personnage, donc qui est interprété par Laura Bailey, notre personnage. Et c'est que j'aime énormément les comédies musicales, et ce jeu-là, j'en parle un peu à tout bout de champ. Ça a pas mal forgé ce que j'avais en tête pour du visual novel, entre guillemets, pendant l'année dernière où j'y ai joué.
Ouais, très chouette OST en tout cas. Et pour le reste de l'entretien, je passe la main à l'équipe. Léa, tu avais une question pour Cassier ?
Moi, c'est ce poste de Technical Narrative Designer que j'ai occupé pendant quelques années chez Ubisoft. Il est assez intéressant parce qu'il est super jeune. Il y a encore 5 ans, ça n'existait pas vraiment. Et traditionnellement, la narration, c'était un petit peu cette chose qui arrivait en bout de chaîne. Donc il y a eu un espèce de retournement ces 5-10 dernières années où on reprend un petit peu, on donne un petit peu plus de place aux narrative designers, aux writers aussi, pour intervenir plutôt dans la production. Et je trouve que c'est très important parce que la façon dont on... conçoit les outils, ça va impacter la façon dont la narration va apparaître dans le jeu. Donc quelque part, designer les outils, c'est déjà, en tout cas c'est mon opinion, faire du game design en fait, quelque part. Mais en tout cas, ce que je trouve assez intéressant, c'est que il y a un côté encore un petit peu Wild West où moi qui me plaît plutôt, où il y a vraiment un range d'expertise qui rentre dans ce poste, où il y a des technical narrative designers qui sont très... Donc voilà, un background beaucoup plus ingénieur, programmation, et qui donc du coup glissent vers le support de ces moyens-là par affinité, et puis... Il y a ceux qui viennent plutôt du design, comme c'est mon cas, où on est designer et puis en fait on est frustré par la façon dont sont faites les choses et on glisse vers les méthodes d'implémentation, les pipelines, en se disant quand même faut faire un effort à ce niveau-là, il faut reprendre le contrôle. Et donc voilà, je me demandais comment est-ce que toi tu appréhendes ce métier, si c'est l'aspect technique qui t'intéresse ou l'aspect créatif, est-ce que c'est quelque chose que tu voudras laisser derrière toi plus tard ou tu aimes bien mettre aussi tes petites mains dans le côté intégration.
Oui, ouais, je comprends beaucoup ce que tu dis. Ouais, ça, comme tu disais, ouais, finalement, les métiers de tech narrative designer ou tech game designer, c'est assez récent, et j'ai l'impression que ouais, c'est Ubisoft qui a fait la porte d'entrée en France, entre guillemets. Mais j'aime bien dire que finalement, entre guillemets, on dit que c'est récent, mais finalement, tous les tafs, toutes les personnes qui ont travaillé en solo dev ou ce genre de choses, bah finalement, c'est aussi un peu ça, j'ai réfléchi à la narration, je l'implémente moi-même et tout ça. Et voilà, comme tu dis, ça peut vite être un peu la guerre où, ok, c'est quoi tes compétences ? Ça, pareil, moi je me dis, ah tiens, je me retrouve à, à faire de l'interface. Ah tiens, je me retrouve à faire des cinématiques et de l'animation. Ah, c'est pas ce que j'avais en tête, c'est pas bon, plus trop mes compétences, mais on se retrouve dedans parce que voilà. Et ouais, c'est encore trop rare de pouvoir se permettre de mettre de la narration en tout début de prod comme ça. Donc comme tu dis, c'est très chouette. Et de mon côté, bah comme je disais, j'ai commencé entre guillemets à faire de la programmation parce que j'aimais bien ça, mais je m'y étais un peu trop impliqué par défaut. Et quand j'ai commencé à me dire ah merde, mais en fait ouais, la narration, je peux vraiment m'y investir plus que ça dans le travail et tout. Bah ouais, j'ai envie de vraiment me garder sur la narration parce que bah c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus. Mais j'aime bien garder une main sur le moteur pour mettre mes propres caméras peut-être des fois, ce genre de choses. Et après ça dépend des outils et tout ça, et de la production aussi. Mais ça fait du bien de voir le truc enfin marcher en moteur et jouable. C'est quelque chose de cool, et encore mieux quand du coup on a pu l'écrire soi-même un petit peu. Donc il y a quelque chose de que j'aime énormément dans le fait de m'en occuper jusqu'à qu'il soit tout peaufiné.
Tizona, tu souhaitais intervenir ?
Oui, je voulais rebondir donc sur un des aspects que tu as abordé. Donc tu fais du sensitive reading checking, qui me semble personnellement primordial, que ce soit le projet, mais surtout dans des projets qui vont viser des sujets sociaux, des questions de représentation, même si ça reste, je pense, un peu trop marginal à l'heure actuelle et peut-être accessoire aux yeux de pas mal de boîtes qui ont peut-être l'impression déjà de bien faire. Mais à titre personnel, est-ce que tu penses qu'il y aurait des manières ou des process qui pourraient être systématisés au début des productions, avec quand même une passe, on va dire, QA au courant de la prod, avec l'avantage peut-être de un peu former les équipes autour de certaines problématiques? Ou est-ce que tu penses que ça reste important de pousser ces efforts-là de sensitive checking vers la fin des prods pour éviter que y ait trop de choses qui aient changé, et que ça puisse vraiment, on va dire, corriger des éléments à un instant où ça reste assez proche du livrable, quitte à ce que toutes les personnes de l'équipe ne soient plus là? Alors globalement, est-ce que tu penses que c'est sensitive checking reading a sa place en tant que formation pour les équipes créatives, ou est-ce que tu penses que l'intérêt principal il repose plutôt sur le produit, sur l'impact que ce genre de démarche peut avoir sur le produit final et la réception qu'auront les consommateurs, consommatrices à l'arrivée? Alors, je ne sais pas du tout comment toi ça s'est intégré dans tes interventions. Je ne sais pas si la question est claire. Je suis désolée.
Moi je dirais que la réponse, c'est genre, c'est un peu des deux, mais mauvais côté des deux, dans le sens où est-ce qu'il faut mettre le poids sur les équipes? Je dirais que non, parce que les gens sont pas forcément là pour ça. Du coup, forcément, quand tu fais de la narration après, c'est bien d'avoir un maximum de background pour faire le minimum d'erreurs, quoi. Et pas tomber très vite dans des choses un peu terribles à relire. Et en même temps, on peut pas trop se permettre de tout mettre ça sur le dos des équipes, parce qu'en fait, très vite, le piège qu'il va y avoir, c'est justement, pourquoi est-ce que je demanderais à quelqu'un qui fait du sensitivity reading de relire mon personnage lesbienne, alors que ça tombe bien, parce que dans le côté design, on a une lesbienne, on pourrait lui demander, tu vois. Et du coup, ça fait que tu mets le poids du sensitivity reading sur le dos de quelqu'un qui était pas là pour ça, et juste parce qu'entre guillemets la personne a le bagage culturel ou autre pour faire ce taf là par défaut, ce qui est pas forcément tout le temps vrai non plus. Et du coup, le piège, c'est que c'est bien de le dire à l'équipe, d'en parler à l'équipe et que l'équipe soit au courant, mais très vite on va se retrouver à ça sert à rien de faire du sensitivity reading, on va juste piocher dans les gens de la boîte pour le faire, c'est pas leur taf, donc leur demandez pas ça. Et de l'autre côté, on peut pas se permettre non plus d'avoir du sensitivity reading que à la toute fin, Parce que justement, bah, quelque chose que j'ai un peu vu aussi sur Caravan Sandwich, c'est qu'en fait, genre, à un moment, j'étais là, on intégrait une quête, et je me disais, attends, mais. On parle du fait que cette quête-là, moi, elle me fait penser à genre. Telle situation qui peut être offensante, telle situation qui peut venir d'un trope un peu étrange, un peu stéréotype ou ce genre de choses. Et en fait, bah, on se disait, ah merde. Ça fait un moment que cette quête elle est designée, et c'est que maintenant qu'on met le doigt sur un souci un peu de trope de ah bah ce personnage là ou cette quête là vient d'un stéréotype qu'on veut pas dans le jeu finalement, et du coup on se retrouve alors que la quête elle est sur le point d'être entièrement intégrée que ah faut tout changer. Du coup il y a énormément de choses et de quêtes dans Caravan Sandwich qui ont été changées vraiment à la toute fin, quand il y avait quasiment plus personne à la production, parce que c'était vraiment la fin de prod, qui en fait, bah, si on avait eu un peu de chance et qu'on avait pu se permettre calir un peu plus tôt, ça se serait vu. Donc c'est bien d'avoir des gens un peu au début, des gens un peu à la fin, pour diriger vers les bons trucs et qu'on base pas 50%, enfin qu'on base pas toute une quête ou 50% de la quête principale sur un stéréotype raté, un trope offensant, problématique ou quoi que ce soit. Et à la fin, pour vous corriger vraiment les coquilles, notamment éventuellement sur du dialogue, où c'est là où il peut y avoir le plus vite, ça peut partir sur des problèmes. Et effectivement, vu que le souci, c'est un peu le truc de « Ah, faut trouver quelqu'un qui soit là au début de prod, en fin de prod. » Et j'ai un peu d'espoir qu'il y ait peut-être un jour des sortes d'agences. Il y a déjà un peu d'agences de narration qui existent en France aussi. Mais ouais, voilà, des agences de narration qui occupent une petite partie sensitivity reading, ou alors des agences de sensitivity reading, pour en gros rassembler un joli pôle... pour avoir un joli pool, je veux dire, de personnes qui seraient dispo un peu quand on veut pour aider les sensitivity readers à avoir du travail et aider toutes les entreprises à pouvoir avoir la personne dont ils ont besoin sans chercher très fort comme c'est nécessaire maintenant, quoi.
Du coup, pour rebondir là-dessus, moi j'ai définitivement connu cette expérience d'être la seule représentante du genre féminin dans une équipe masculine et d'avoir un directeur se tourner vers moi sur un point de discussion pour dire « Et toi, Léa, sur cette représentation féminine, on est d'accord, hein, c'est pas un problème. » Et puis moi, avec un sourire un peu figé sur le visage, « Oui, oui, je pense que ça ira », tout en pensant que c'était pas tout à fait... Enfin voilà, avoir ce côté, tout à coup, on est un peu mis sous pression pour être la caution féminine, en tout cas, ça, dans mon cas, la caution féminine, je connais. Et aussi, ça apporte une autre chose, c'est qu'au final, si on demande, par exemple, à la lesbienne de l'équipe son expérience, on a toujours qu'une seule expérience. Et je suis désolée, mais des gens qui ont des bad takes sur leur propre expérience, il y en a beaucoup, hein. Et donc, du coup, c'est ce que je m'attends presque plus d'un sensitivity reader, c'est de se faire l'agrégation de tout un tas de perspectives sur une identité, et pas juste être « voici mon expérience personnelle, mais voici, je connais bien ce milieu, cette expérience, j'ai... discuté avec beaucoup de gens, enfin, on m'a partagé beaucoup d'expériences, et voici le consensus, voici ce que certaines personnes pensent comme ça, certaines c'est plutôt ça, et voilà, faites-en ce que vous voulez. Et donc, du coup, plutôt de prendre en compte la multiplicité des expériences, plutôt que moi je le pense comme ça, donc c'est comme ça.
Oui, clairement. C'est pour ça que c'est vraiment un très bon point. Et aussi, ça me fait penser au fait que, quand t'es dans la boîte et que ton patron te regarde dans les yeux en disant « Est-ce que je suis raciste? Est-ce que je suis sexiste ?» Bah, c'est un peu difficile quand t'es employé de le regarder dans les yeux et dire « Oui, tu es tout ça !»
Exactement, donc, exactement.
Forcément qu'au moins, avec quelqu'un qui est sensitivity reader, y a pas de soucis, y a pas de... T'es pas... T'es pas, t'es pas tu parles pas à ton patron, tu parles pas à quelqu'un supérieur à toi, c'est genre, tu es là pour ça, tu peux dire tout ce que tu penses, tu peux dire les choses factuelles et des choses comme ça, sans que tu aies la crainte qu'en fait, super, maintenant t'es l'employé qui insulte le patron de tout ça, quoi. Un truc comme ça, quoi. Ça peut vite arriver, ce genre de choses.
Troisième pause musicale avec Amidati and Also Eleanor, composée par Kumi Tanioka pour l'OST de Final Fantasy Crystal Chronicles. Vous écoutez Une heure et des pixels sur Radio Campus Paris et on enchaîne tout de suite avec la chronique que Beyond avait consacrée au jeu The Cosmic Wheel of Sisterhood du studio Deconstruct Team en novembre 2023.
Pour ma chronique, j'ai décidé de vous recommander un petit jeu. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, cet été a été exceptionnellement chargé en sorties. Et si c'est bien sûr Baldur's Gate 3 qui a pris toute la lumière, et à juste titre, on a eu aussi une sortie à ne pas oublier, The Cosmic Wheel of Sisterhood. C'est le dernier jeu du studio espagnol Deconstruct Team, connu entre autres pour Gods Will Be Watching en 2014, et surtout The Red Strings Club en 2018, jeu totalement incroyable au passage. Et après avoir fait ce dernier, j'étais très curieux de voir quel allait être leur prochain gros jeu, et l'attente arrive enfin à son terme. Sauf qu'avant de faire ça, j'avais oublié qu'ils avaient sorti un petit jeu en 2021, Essays on Empathy. Et si ça faisait longtemps que je souhaitais le faire, j'avoue que la forme du jeu ne m'avait pas motivé assez pour le faire immédiatement à sa sortie. On me l'a toujours vendu comme une compilation de petits jeux faits par la Deconstruct Team sur ces dernières années, et j'admets que j'avais peur de cet aspect collection sans fil conducteur. Sauf qu'en fait, c'est un jeu qui cache bien plus que ça, et pour le coup, on peut le comprendre assez vite dès qu'on lance la compilation. Car une fois dans le menu, vous vous rendez compte que chaque jeu est accompagné de documents de travail utilisés pour l'élaboration du jeu, comme les recherches sur les mécaniques ou le style visuel. Mais surtout, chaque jeu est accompagné d'une petite vidéo de la Deconstruct Team qui détaille la création du jeu ainsi que leur volonté à l'époque. Ce qui fait que Essays on Empathy contient bien plus d'une heure de documentaire sur la création de chaque petit jeu. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure que j'ai mentionné attendre leur prochain gros jeu. Et si j'ai utilisé ce terme, c'est parce que la Deconstruct Team est une équipe qui a participé à pas mal de Game Jam, ces événements de création de jeux avec des contraintes de temps et de thèmes. Et chacun de ces petits jeux ont été créés au fur et à mesure de la vie du studio, et non pas uniquement à leur début. Si vous jouez alors à ces jeux dans le même ordre que leur date de sortie, vous pourrez vraiment voir l'évolution des volontés de l'équipe avec le temps, et Essays on Empathy devient alors un témoignage des changements profonds qui ont animé le studio. Si au début l'équipe était plutôt intéressée par les mécaniques de jeu purs, on sent très vite que la narration va prendre une place de plus en plus importante. Les thématiques très chères au studio vont alors être de plus en plus présentes dans le jeu. Dans les crédits, on apprend que c'est le programmeur Jordi Depaco qui s'occupe aussi de l'écriture des jeux. Marina González s'occupe de toute l'esthétique magnifique des jeux, et c'est Paola Ruiz, plus connue sous le nom de Fingerspit, qui fait tous les sons et musiques exceptionnels des jeux. Seulement en visionnage des documentaires, on se rend bien compte que tous les jeux sont le fruit d'une véritable collaboration créative entre ces trois-là. Découvrir plus en détail chaque membre de l'équipe, ainsi que leur synergie, permet de mieux saisir ce qui fait l'âme de la Deconstruct Team, alors je vous laisse le plaisir du visionnage et je vous en dis pas plus. Pour vous citer quelques jeux qui m'ont particulièrement marqué, on pourrait commencer par 1145, A Vivid Life. Le pitch du jeu est très simple. Vous vous rendez compte que votre squelette n'est pas le vôtre. Le jeu se déroule alors en deux temps. Une radiographie pour détecter les anomalies corporelles, et à chaque souci, le personnage va alors proposer trois explications possibles. Par exemple, vous avez un pied plus grand que l'autre parce qu'on vous a fait une greffe, ou alors parce que vous avez eu un grave accident dans votre enfance, ou encore vous avez été torturé pendant l'armée. Et à force de faire des choix sur vos séquelles, vous choisissez vous-même votre propre origin story, et le jeu conclura sur ce qui vous est vraiment arrivé en fonction de vos choix. Ou encore, j'ai beaucoup aimé Détresse al Quattro, sublime jeu narratif qui nous permet d'incarner un couple de comédiens de stand-up qui pratiquent leurs blagues en début de soirée et se posent des questions sur leur avenir le reste de la nuit. Et je suis bien sûr obligé de citer Behind Every Great One, incroyable jeu sur l'exploitation domestique dont Ash avait déjà parlé dans l'épisode 3 de la saison 5. Bref, Essays on Empathy est un jeu formidable si vous vous intéressez un petit peu à la création de jeux, car elle montre bien les petites étapes qui ont amené aujourd'hui à Cosmic Wheel of Sisterhood. Si individuellement les jeux ne se valent pas tous et ne révolutionnent rien, c'est bien dans la compilation qu'ils prennent du sens. Je peux pas aller trop loin dans le détail, mais c'est aussi un jeu très touchant pour parler des difficultés de la création et des doutes que cela amène. Et enfin, c'est aussi un jeu qui touche beaucoup à des moments de vie très humains dans lesquels notre empathie est fortement impliquée, et c'est la raison du nom de cette petite compilation. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que des personnes veulent réagir ?
Ouais, ça me fait penser un petit peu à la suite de Stanley Parable, tu sais, qui se... Je sais plus le nom
tout
du jeu.
Tout à fait. La Ultra Deluxe.
Ouais, exactement, oui, c'est pas vraiment une suite, etc. Pareil, où c'est l'auteur, il me semble, qui se questionne vraiment sur l'acte créatif. Et du coup, là, c'est très intéressant d'avoir une équipe qui se prête à ce jeu-là. Et je me demandais, est-ce que les vidéos et les mini-jeux se répondent, du coup, ou est-ce que c'est complètement corrélé... Enfin, pas corrélé, justement.
Bah, si par se répondre, tu entends l'histoire qu'il y a vraiment une suite ou un espèce de fil conducteur narratif ou une histoire qui se suit, pas vraiment, c'est vraiment des jeux qui sont... vraiment, quand tu les prends à part, tu te dirais qu'il y a vraiment aucun lien. En fait, le lien, ça va vraiment être dans l'histoire de l'équipe, c'est-à-dire, au début, tu vois qu'il n'y a aucune histoire, l'histoire, c'est vraiment un prétexte. Mmh. Puis ensuite, tu te dis, ah, j'aimerais beaucoup parler des thématiques de transhumanisme. Ah tiens, je rajoute un peu de récit queer à mon truc, et ainsi de suite. Et tu vois qu'à la fin, il y a et ce qui est trop intéressant, c'est qu'aussi, ils racontent, cette idée-là, ça, c'était trop bien, on s'est dit, purée, on pourrait en faire un jeu, ah, ben tiens, ça aussi, et si on regroupe ça, on pourrait en faire un jeu, on rajoute quelques trucs narratifs, et ça a donné The Red Strings Club, tu vois.
Ouais, qui avait beaucoup de questionnements aussi,
c'est
philosophiques.
Ça.
Ouais, trop, trop bien, trop bonne idée, ça.
Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ?
Juste merci beaucoup pour les conseils. Je note.
Eh ben, avec plaisir, hein. Moi, je recommande, en plus, le jeu, est, pour info, le jeu est pas très long, il m'a pris 5-6 heures. C'est des jeux très courts, en général, il y a que le tout dernier qui dure bien 1h20, 1h30. Mais à part ça, c'est des jeux assez courts et qui valent vraiment le coup, je trouve. Enfin, tous ne se valent pas, mais il y en a vraiment, c'est 20 minutes, et c'est 20 minutes où, à la fin, mon petit cœur était en miettes.
Oh, eh bah du coup ça a marché, c'était vraiment au niveau empathie, oui. T'étais à fond, ah trop bien.
C'est ça. Excellent. Et je recommande aussi la chronique que Ash avait fait sur Behind Every Great One, parce que après avoir fait le jeu, je peux dire qu'elle avait tout à fait raison.
Non mais je peux que recommander les deux titres aussi, je n'ai pas grand chose à ajouter, et pourtant je fais partie des personnes qui n'ont pas aimé The Red String Club.
Ah ouais ?
Plus dans la dynamique du jeu. Où je me suis ennuyée, littéralement, au bout d'un moment. Et comme je suis sortie du jeu, j'avais plus l'intérêt narratif, je m'en fichais un peu plus. Mais par contre, Cosmic Well et le petit jeu dont tu parlais, cet agglomérat de petits jeux sont vraiment très très cool. Hein. Donc même si vous n'avez pas aimé The Red String, n'hésitez pas à jeter un œil aux deux autres propositions de la déconstructive.
Moi, je n'ai pas encore fait Cosmic Well, j'ai très très hâte.
Incroyable, incroyable.
Je le vois passer partout sur Twitch, j'ai pas regardé encore.
Franchement, c'est à deux doigts d'être mon jeu de 2023 avec Baldur's Gate. Hein. Oh. Les deux sont côte à côte.
Ah non, mais spoil pas.
Réponse le mois prochain.
émissions.
Non.
On termine ce quatrième florilège avec la dernière chronique de H dans l'émission, diffusée elle aussi il y a tout juste un an, et dans laquelle elle s'interrogeait sur les modules de création de personnages dans le jeu vidéo et le morcellement des corps qu'ils impliquent.
Oui. C'était plus, alors ça, il y a un grand titre pompeux, mais c'était plus une petite réflexion que je m'étais faite il y a quelques temps où j'étais plongé dans Cyberspace, Cyberbodies, Cyberpunk, qui est un recueil d'essais qui date des années 80 et qui a gardé un statut un petit peu culte. Il tente de questionner, de donner plein de perspectives sur l'explosion de l'informatique, des réseaux, mais aussi de l'imaginaire cybernétique, cyberpunk, qui se développe en même temps dans ces années 90. Bon, c'est rempli de grands noms qui restent un petit peu après, côté universitaire, Sadie Plant, Nick Land, Vivian Sobchak. Et il y a un texte en particulier, qui n'est pas le plus connu, mais qui m'a beaucoup fait tiquer. Dans la génération récursive du cybercorps, alors oui, il faut des titres ronflants, mais vous inquiétez pas, tout va bien, Kevin Robbins défend que, bon, vous savez, dès qu'il y a un nouveau média qui apparaît, il y a un nouveau langage qui correspond et qui se met à se créer. Par exemple, avec l'informatique et le jeu vidéo, il y a tout un langage des avatars et de chat et d'interaction que votre grand-mère ne comprend pas. Et ben, ce langage, qui a l'air tout neuf et très spécifique à ce média-là, il est en fait très très fortement influencé par les langages des médias précédents. Ainsi, pour Robbins, le langage du cinéma était très moderniste, on voyait ça directement jusque dans les types de corps qui étaient mis en avant. Il y avait en gros 2-3 archétypes dans le cinéma hollywoodien, et tous les acteurs, actrices, s'y rapportaient plus ou moins directement. Et puis arrive la télé. Et avec la télé, il y a des séquences vidéo beaucoup plus courtes, 5-6 minutes, entrecoupées de pubs, et puis surtout on a le zapping, on passe d'une chaîne à l'autre très rapidement. Donc chaque séquence doit être immédiatement identifiable pour capter l'attention du spectateur. Et du coup, elle se met à être plus directe, flashy, à sursignifier tout ce qu'elle a à dire. C'est, c'est le classique de la série le soap opéra qui est tout de suite identifiable, la série, la pub qui est très très flashy, qui dit très vite ce qu'elle veut dire et tout. Et de la même façon, on met en avant des corps beaucoup plus divers, mais beaucoup plus exagérés aussi. Ils doivent être reconnaissables du premier coup d'œil. Des corps souvent ultra virils ou ultra féminins, ou alors des corps gros et hideux quand on veut s'en moquer. Donc il y a des corps divers, mais c'est pas forcément qu'une bonne chose. Des corps qui sont morcelés par le zapping et qui doivent être reconnaissables en un clin d'œil. Et c'est ce langage-là qu'il voit se répéter dans la culture informatique et gaming naissante à l'époque. C'est drôle parce qu'on est encore en 1995. On est au balbutiement de la 3D temps réel, avant les premiers MMORPG. Robbins, là, il parle plus de la façon dont on se décrit dans des interfaces de roleplay complètement textuelles en ligne, à l'époque, ou alors à l'imagerie ultra-sexualisée qui se développe dans le jeu vidéo, sur les jaquettes et tout. Et pourtant, on a l'impression qu'il parle déjà des outils de création de personnages modernes qu'on connaît bien, ceux qui nous permettent d'assembler des avatars en choisissant une à une chaque partie et en les assemblant comme des Legos. Et en fait, je trouve ça intéressant parce que ce fait de recréer son corps dans un avatar assemblé de plein de différents morceaux, on a l'impression que c'est un truc super caractéristique du jeu vidéo. On a en tête l'image des lobbies de World of Warcraft, de Second Life ou plus récemment de VRChat, avec tous les corps différents bariolés qui se mettent à côté et qui sont en même temps souvent très très, très très exagérés. Or, bah, l'omniprésence de la création de personnages dans le jeu vidéo, c'est juste que le média, il s'est branché sur un langage, celui de la télé, qui était déjà omniprésent à l'époque, et une façon d'expérimenter la vie sociale et les corps qui étaient déjà omniprésents. Et je pense que ça permet... Donc déjà, ça, je trouvais ça une petite remarque intéressante. Et puis en plus, ça permet aussi, je pense, d'approfondir notre lecture de pourquoi est-ce qu'il y a une imagerie aussi objectifiante qui s'est développée dans le jeu vidéo, plus à un niveau psychologique. Parce que les masculins, ils disent qu'ils veulent des héros baraqués pour s'y identifier, ou alors des héroïnes sexy pour les mater. Mais à un moment, pourquoi est-ce que ça les dérange pas de devoir mater des mecs baraqués ou d'être obligés de s'identifier à une meuf sexy ? Alors souvent on répond ça en disant « Ah là là, vous dites ça, mais ça veut dire que vous êtes un peu gay ou que vous êtes un peu trans, haha, c'est ridicule. » Et en vrai, bon bah, ce serait bien d'arrêter de se moquer d'eux parce qu'ils sont potentiellement un peu, LGBT. Surtout, c'est pas ça leur souci. À partir du moment où on admet que les corps sont virtuels, qu'on peut les composer comme on veut, que c'est des corps cyborgs, bah y a une anxiété qui se crée chez eux. Le corps veut plus rien dire, le homme et femme veut plus vraiment rien dire, c'est juste un assemblage comme un autre. Et du coup, ça crée une certaine anxiété qu'il faut calmer. Ça se passe déjà dans le cinéma de science-fiction de l'époque, il y a partout des corps ultra-genrés, ultra-féminins, ultra-virils, pour chasser cette anxiété. Ou les Terminators, etc. Oui, tout est faux, mais on reste dans un monde de gros bonhommes et de femmes en bikini. Et c'est la même chose que font les masculins dans le jeu vidéo. Ils marquent un espace vierge, un espace un peu inquiétant qui est celui du jeu vidéo, de la 3D, où bah, on n'a plus les marques habituelles des corps très genrés qu'on a chez nous, et aussi racisés et tout. Mais ils reviennent, et ils le marquent comme un espace à eux pour chasser toute cette anxiété-là. Et nous, on doit incarner cette anxiété. Merci.
Est-ce que des gens veulent rebondir ou ont des questions, des remarques ? Léa, tu voulais prendre la parole ?
Oui, alors du coup, merci pour cette chronique. Ça m'a fait penser sur le jeu sur lequel je travaille actuellement. Il a notamment un créateur de personnages. Et une chose qu'on voit beaucoup dans ces créateurs de personnages, c'est on se retrouve avec beaucoup de traits du visage ou des coiffures qui ont une très forte connotation culturelle. Mais comme on est parfaitement libre de faire des associations comme ça, on peut se retrouver avec des visages qui sont clairement typés afro, mais qui sont tout blancs, avec des cheveux hyper lisses. Bon, après, les cheveux lisses, c'est pas nécessairement... toutes les personnes de couleur n'ont pas forcément des cheveux frisés. Mais voilà, on peut faire une espèce de patchwork culturel un peu bizarre. Et ça m'amène aussi à la question du blackface digital, que moi, je ne suis pas du tout qualifiée de discuter, mais je sais que c'est quelque chose qui revient de temps en temps dans ce genre de discussion. Je l'ai vu en particulier mentionné dans des cercles de roleplay, ce genre de choses. Est-ce que incarner des personnages qui ne sont pas... Enfin, qui créer des personnages voilà, qui ne sont pas nécessairement notre culture, notre couleur de peau, est-ce que ça pose problème ? Forcément pas de la même façon que dans la vraie vie, mais enfin, voilà, ça ouvre toute une conversation que moi, personnellement, je ne suis pas super équipée pour avoir, mais je me demandais si toi, tu avais peut-être des opinions là-dessus.
Oui, complètement. Enfin, oui, c'est des questions super intéressantes. Et comment dire ça Et bon, bah voilà, on va pas, ça serait complètement absurde de s'imaginer, genre, choisir quelle couleur de peau ou quoi que ce soit. Et puis il y a des questions un peu différentes, par exemple, ça peut être, enfin, oui, voilà, sur un jeu solo, peut-être qu'il y aurait moins de soucis en théorie à choisir un avatar qui nous ressemble pas spécialement, alors que sur un jeu en ligne, bah, tu vas incarner et tu vas avoir des interactions sociales à travers cet avatar et représenter et tout, toi-même souvent agir selon certains préjugés que t'auras selon les couleurs de peau des gens que tu incarnes et tout. Mais en vrai, dans tous les cas, justement, je pense que une des grandes questions qu'il faut voir, c'est que comment dire ça En vrai, on n'exploite jamais toutes les possibilités de création de personnages, particulièrement en ligne, parce qu'il y a toujours certains comportements qui, concrètement, dans le jeu, vont être vus comme acceptables et vont être vus comme, au contraire, comme brisant un petit peu les codes. Et en vrai, voilà, c'est pas... je pense qu'il n'y a pas que la question de l'espace de possibilités que te donne le personnage, mais le créateur de personnage, mais aussi de l'espace de possibilités socialement que va te donner le jeu, et que, bah, globalement, si tu fais une... Enfin, voilà, il faudrait... Pareil, il y a toutes les questions il y a plein de jeux ou d'univers où tu vas représenter certains groupes sociaux, parfois certaines tribus selon quand se passe ton jeu, etc. Et il y a toujours cette question comment dire ça, bon bref, voilà, tout ça aussi c'est des questions compliquées, mais en tout cas je pense que il y a cette question de l'espace de possibilité de ton créateur de personnage, il y a cette question de quel espace de possibilité va y avoir socialement et pour un jeu en ligne. Et bah, si tu encourages une communauté qui est cool, qui est diverse et où le racisme est pas toléré, où les comportements un peu nuls sont pas tolérés, bah genre globalement quelqu'un qui va vouloir plus ou moins obviously faire un blackface soit de façon caricaturale et méchante, soit même de façon un peu exotifiante, mais au final tout le monde va se dire c'est qui ce mec chelou et tout, bah dans tous les cas c'est quelqu'un qui va se faire mettre sur le banc et qui va devoir et qui va finir par créer par se comporter un petit peu mieux de ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, le digital blackface, je vois beaucoup la question à aborder sur des façons dont les gens utilisent des personnes noires en PP alors que parfois elles sont blanches ou utilisent beaucoup des mèmes, des gifs, etc. Et je l'ai pas beaucoup vu aborder, justement. Je sais pas du tout si ça se passe beaucoup dans des jeux vidéo et quelles problématiques ça soulève, donc je suis pas du tout une experte pour ça, c'est un peu mes two cents, avec mes deux centimes avec ce que je sais, mais c'est grave intéressant comme question.
Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous espérons que vous avez apprécié découvrir ou redécouvrir ces chroniques et l'entretien avec Cassie, et nous nous retrouvons le mois prochain, en équipe entière on l'espère, et pour une émission inédite qui sera la dernière de la saison. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous nous quittons sur So Say We All, composé par Nicolas de Ferrand, pour l'OST de Battlestar Galactica Scattered Hopes.